perturbe pas trop. Super. On a un pasteur trop à fond. Hein. Il est presque en vacances, il a rien à faire ce culte. Il part demain, 3 semaines. Johan, mais quand même investi, regarde. Pasteur au service. Même le verre d'eau, t'es incroyable, Johan. Tu pars en vacances demain, hein, quand même. Ouais, super. Est-ce que le micro devant, ça va faire des... Je recule un peu, peut-être. Alors, le PowerPoint. Tout fonctionne, merveilleux. Quelle espérance dans la souffrance ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir, étudier ensemble ce matin. On a loué notre Dieu, on a pris la scène, on a pu déposer aussi nos limites à ses pieds. Et puis moi, il y a quelque chose qui me travaille, qui me taraude. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que les gens n'étaient plus si intéressés par la question de Dieu. Et ma question, c'est, on le loue, on vient au culte, il transforme nos vies, on vit pour lui, on sait le changement énorme que ça a, l'impact que Dieu a dans nos vies. On a un Dieu tellement bon, et comment expliquer aux gens ce Dieu bon qu'on a ? Comment expliquer cette bonté ? Surtout que j'ai appris que notre société était dans une situation d'apathéisme. C'est assez nouveau, il y a un bouquin qui est sorti sur ce sujet. En gros, c'est Dieu bof, on n'est pas trop intéressé. En fait, les gens ne s'intéressent plus tant que ça à la question de Dieu ou du divin. À l'époque de l'athéisme, les gens se positionnent contre Dieu. Là, on étudie et on dit non, mais moi je crois en la science, Dieu c'est un non. Donc je réponds à la question. L'apathéisme, ça veut dire que les gens ne se posent même pas la question. C'est Dieu, bah c'est cool si c'est bien pour toi. Moi, j'ai pas besoin de me poser la question en fait. Et ce constat est absolument affligeant. Quand on m'a dit ça, je me dis, bah, notre témoignage il est hyper compliqué. Si les gens se posent même pas la question, comment vous voulez qu'on y apporte une réponse ? Comment expliquer que Dieu est bon si les gens se posent même pas la question de qui est Dieu ? Et un truc super intéressant, c'est qu'une des raisons principales et fondamentales derrière ce phénomène, c'est la question de la souffrance. Et c'est la question des gens qui se disent « Mais en fait, le monde va tellement mal. Moi, j'ai aussi mes problèmes. Si vraiment il y a un Dieu bon quelque part, qu'est-ce qu'il fout ? Où est-il ? C'est quoi sa bonté ?» Et là, on rejoint quelque chose de notre société super intéressante. On a la société la plus anxieuse qui ait jamais existé. Pourquoi ? Très très simple, pas forcément parce qu'on est plus fragile d'esprit qu'avant, mais plus les nouvelles viennent de loin, plus elles sont mauvaises. Ça c'est logique, les médias ils vont pas nous dire ce qui se passe de super très très loin parce que ça intéresse personne. Et on n'a jamais été autant informé de tout ce qui se passe dans le monde entier. Donc proportionnellement, on a tellement de mauvaises nouvelles par rapport à ce qui se passe de bon localement ou de mes petites victoires de ma vie. Les gens sont plus seuls qu'avant et souffrent de ce qui se passe de mauvais. Alors un Dieu bon qui voilà, était dans une culture passée, ça ne m'intéresse pas. Je sais que mes grands-parents ils vont à l'église, puis moi j'ai d'autres choses. Alors dans ce contexte-là, comment témoigner de notre espérance ? Je ne sais pas où je dois viser, là au fond. Dans une société qui me dit Dieu, bof, tu ne m'intéresses pas avec ton témoignage, comment témoigner de notre espérance ? Parce que je crois... et j'espère que vous avec moi, que l'espérance qu'on a en Christ, elle est pertinente pour notre société aujourd'hui, et pour ce que les gens vivent ou souffrent. Alors, qui est ce Dieu qui peut répondre à ce Dieu bof, cet apathéisme ? Je vous propose de le voir, le lire même en chair et en os. Qui a été ce Dieu, Jésus ? Comment a-t-il réagi ? Comment s'est-il révélé être bon et être qui il est face à la souffrance des gens, en l'occurrence la souffrance d'un paralytique, en Luc 5, 17 à 26. Alors nous lisons. Jésus guérit un homme paralysé. Un jour, Jésus est en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de Galilée et de Judée et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des malades. Des hommes arrivent. Il porte sur une natte quelqu'un qui est paralysé. Les hommes cherchent à faire entrer le malade dans la maison et à le placer devant Jésus. mais ils n'arrivent pas à le faire entrer à cause de la foule. Alors ils montent sur le toit, ils font une ouverture à travers les tuiles. Ouais, on est bon, pardon. Et ils descendent le malade sur sa natte, au milieu de tous, devant Jésus. Quand Jésus voit leur foi, il dit au malade, « Reprends courage, tes péchés sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mettent à penser, « Qui est cet homme ? Il insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Mais Jésus connaît leurs pensées et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire, « Tes péchés te sont pardonnés ?» ou dire, « Lève-toi et marche. » Eh bien, vous devez savoir ceci, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde, il prend la natte sur laquelle il était couché et il rentre chez lui en disant, « Gloire à Dieu. » Tous les gens sont très étonnés et ils sont dans la crainte. Ils disent aussi, « Gloire à Dieu, aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaire. La première facette que Jésus nous montre de Dieu ici, face à la souffrance, un homme paralysé de naissance même, nous précise les autres évangiles, c'est un Dieu de promesses. Dans la série The Chosen, là, les quelques images que je vous ai mises sur la droite, la femme du haut est une des quatre qui apporte son ami malade, pleine de tristesse pour cet homme qui souffre depuis sa naissance, qu'elle connaît depuis des années, et avec une foi qui, j'ai vu ce Jésus, je crois en lui, on va t'apporter là-bas. Et ça demande une foi énorme, parce que devant la foule, si jamais ce Jésus-là, il pouvait rien faire, l'ami paralysé, il avait de quoi lui en vouloir, c'était la honte, au milieu de tous, bon ben, reprenez-moi sur ma natte, je repars. Et on voit en bas Jésus qui regarde le paralysé avec compassion. Et Jésus qui répond à la femme dans l'épisode, en l'occurrence, « Ta foi est magnifique. » Et c'est vrai, c'est la première chose qu'on voit dans ce passage, c'est la foi des amis qui croient en Jésus et qui savent « On va t'amener là-bas parce que ce Dieu-là, cet homme-là, il a quelque chose de spécial, il a quelque chose pour toi. » Et moi, je trouve génial la réponse de Jésus, c'est ce qu'on attend. Comment il se révèle bon, Jésus, dans cette situation où il y a tout, il y a un homme qui vient plein de craintes, avec une souffrance depuis des années. La réponse qu'il estime la plus importante, qu'il estime être la réponse qu'il doit donner en premier, c'est « Tes péchés sont pardonnés ». Dans la slide avant, je vous ai mis entre parenthèses « Reprends courage ». Parce qu'il n'est pas dans le texte de Luc, mais Matthieu rajoute ça, ou précise que Jésus a aussi dit ça « Reprends courage ». Et moi, quand je m'imagine la scène, un gars paralysé qui vient devant Jésus, je me dis, Jésus, il lui dit, reprends courage, lève-toi et marche. Je te guéris du mal que tu viens me présenter. Et Jésus, il lui dit, reprends courage, tes péchés sont pardonnés. C'est ça le truc central, la promesse que Dieu lui fait et qu'on sait être pour nous aussi et pour chacun qui donne sa vie à Christ. C'est que Dieu nous répond toujours. Quand on vient devant lui avec foi comme cet homme, et même la foi de ses amis là en l'occurrence, Jésus nous répond toujours, reprends courage, tes péchés sont pardonnés. Et c'est même super intéressant que dans la pensée juive, sûrement pour ce paralytique d'ailleurs, le handicap physique ou la maladie physique était comprise comme quelque chose venant du péché. Parce que j'ai des péchés trop profonds que Dieu ne peut pas me pardonner, alors il me punit, je suis maudit, je suis paralysé. Et il y a plusieurs commentateurs qui disent, en fait, cet homme-là qui arrive, sa plus grande peur, sa plus grande honte de venir en tant que paralysé, c'était de montrer à la foule et à Jésus, regarde comme je suis pécheur, en fait. Je suis maudit, ma paralysie est une image de comment je suis pécheur. Et cette pensée est tout à fait fausse. Et Jésus y répond à cette peur qu'il discerne en disant, reprends courage. Tes péchés sont pardonnés. Et Jésus se révèle par cette phrase être Dieu lui-même. D'ailleurs, les pharisiens, c'est là-dessus qu'ils lui bondissent tout de suite dessus en disant « Tu blasphèmes, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Donc si tu pardonnes les péchés, tu es en train de dire que tu es Dieu. C'est complètement blasphématoire. Et les pharisiens savaient, eux, qu'est-ce que ça voulait dire se faire pardonner les péchés. Ils avaient des lois, des préceptes, des choses à respecter. Ils avaient œuvré toute leur vie pour espérer être pardonnés de Dieu. Et pour eux, certainement que ce paralytique, c'était une preuve de dire, bah voilà, il est maudit, on voit bien que Dieu a des péchés qu'il ne peut pas lui pardonner, là. Et là, on a un homme, Dieu lui-même, qui lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et alors Jésus, il comprend que les pharisiens sont en train de se murmurer ou même de penser ça, et il leur dit, ok, vous pensez que ce miracle-là, il est impossible, il n'est pas visible, effectivement, mais il y a un autre miracle-là que je pourrais faire. C'est plus facile, vous pensez, de le relever, là ? C'est tout autant impossible. Alors je vais vous le montrer, je vais vous démontrer la puissance que j'ai. Oui, le Fils de l'homme a la puissance et le pouvoir de pardonner les péchés, tout autant que de faire des miracles. Je vous le prouve, lève-toi et marche. Et le gars se lève. Le lève-toi et marche, c'est un signe visible de la puissance de Dieu. Jésus prouve qu'il est Dieu, montre, démontre, pour pointer vers le premier miracle. Vous voyez, si je suis capable de faire l'impossible là, visible, pourquoi vous n'arrivez pas à croire que je suis aussi capable de faire le miracle invisible, tout aussi impossible à vos yeux, que ses péchés sont pardonnés juste parce qu'il est venu avec foi devant moi. Alors le Dieu que nous avons n'est pas limité et que notre foi ne le limite pas non plus. Il est capable de pardonner les péchés et cela à chaque fois qu'on vient devant lui. Il est capable aussi de faire n'importe quel miracle, guérison, maladie, délivrance. Il n'est pas limité. Mais quel est le véritable enjeu là dans ces deux miracles ? L'enjeu principal pour chaque homme, chaque personne qui vient comme ce paralytique avec une maladie, souffrance et « Seigneur, guéris-moi, je t'en prie ». L'enjeu pour le paralytique, c'est la fin de sa vie, quoi. Il va pouvoir marcher ou pas. L'enjeu, il est assez petit à côté de l'enjeu de « si je suis pardonné, si mes péchés sont pardonnés, alors Dieu m'offre tellement, c'est énorme ». Et des fois, on a de la peine à mettre en perspective ces deux miracles de nos vies. Quand on lui apporte nos souffrances et qu'il n'y a pas les réponses escomptées, on se dit, bah, tu ne fais pas le miracle. Pourquoi ? Et à côté de ça, l'autre miracle, je viens avec foi devant toi, mes péchés sont pardonnés, ça, il le fait toujours. Et l'enjeu, en fait, il est surtout pour Jésus, là. Parce que s'il relève le paralysé, c'est une manière qu'il a décidée pour révéler sa puissance. Donc l'enjeu du miracle de la guérison, là, il est surtout pour Dieu, de comment lui, il choisit de révéler sa puissance et son pouvoir. Pour le paralysé, l'enjeu principal, c'est la vie éternelle. C'est tellement plus énorme que de pouvoir marcher pour les années qui lui restent. Et pourtant, marcher pour les années qui lui restent, c'est déjà énorme. Donc ça nous paraît difficile en tant qu'humain à remettre en perspective. Avant de reparler de cette remise en perspective, juste une deuxième facette, un Dieu de promesses. On l'a vu, un Dieu qui nous promet à chacun, quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances, il nous promet que nos péchés sont pardonnés. La deuxième chose qu'on voit ici et qui se lit pas mal, c'est le Dieu souverain qui est dans cette situation. Il faut imaginer, Jésus, il est au début de son ministère, il y a des pharisiens qui viennent pour le coincer, et si quelqu'un blasphème, la peine qui lui est infligée, c'est la mort. Donc les pharisiens, ils viennent pour pouvoir accuser Jésus de mort et pour le faire tuer. L'enjeu, il est énorme pour Jésus là, de ne pas se planter non plus, parce que son ministère, il a encore pas mal à faire. Il est au début, son équipe de disciples n'est même pas au complet. Il y a des gens à enseigner, et là, il y a quelqu'un qui descend du toit, un paralysé, il voit des amis qui ont la foi. Enfin, il y a de quoi complètement s'affoler. Et on voit là un Dieu qui se révèle complètement souverain, jamais affolé ou perdu. Il sait toujours quoi faire, parce qu'il a tout dans ses mains. Et ça aussi, ça doit pouvoir nous aider dans cette remise en perspective de se dire, ouais, « Waouh, mes souffrances, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu y réponds comme ça ou pourquoi je ne te vois même pas y répondre. Mais je sais que tu es un Dieu souverain. La Bible me parle d'un Dieu qui a tout dans ses mains. » Je regarde juste que ce ne soit pas mon téléphone, mais je ne crois pas. Alors pour remettre en perspective, je vous propose une petite image. Ah oui, pardon. Un Dieu souverain, ce n'est pas un Dieu qui nous utilise comme des marionnettes. Hein. C'est un Dieu qui nous porte dans ses mains. Et c'est très différent, on le verra comme troisième et dernier point tout à l'heure. Un Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu. Et ça, quand on nage dans la souffrance, dans la douleur, la maladie, ça fait juste du bien de pouvoir se dire, ouais, en fait, ce n'est pas juste du flou, du hasard et quelque chose de tout à fait éphémère. Il y a quelqu'un, il y a un Dieu qui tient tout dans ses mains. Et on nous a parlé de Nadal il y a quelques semaines, donc j'égalise quand même l'image pour remettre l'église au milieu du village. Roger Federer, légende du tennis suisse, sa première finale de sa carrière à 18 ans. Alors, ce n'est pas une image à 18 ans, là il est un peu plus vieux, mais toutes les images où il pleure quand il est jeune sont supprimées, ou je ne sais pas, impossible d'en trouver. Bref, première finale de sa carrière, Federer la perd contre un autre joueur suisse un peu plus vieux, d'ailleurs Marc Rosset. En 2 heures, il se fait laminer. Et Marc Rosset adore raconter cette anecdote à toutes les antennes de RTS. Que, ah voilà, jeune Federer qui perd, bon super, il doit être content. Et quand il rentre dans les vestiaires, Rosset, après avoir salué la foule et tout, il trouve un Roger Federer, mais en larmes, en crise, tellement triste. Et il prend Marc Rosset dans ses bras en disant « Mais ça se trouve, c'était la seule finale de ma carrière. J'ai raté, mais j'ai raté toute ma vie. Je suis foutu. T'imagines la douleur là de ce tournoi perdu. Je me suis donné pendant 2 semaines. Ça fait 15 ans que je joue au tennis. Ça pour perdre maintenant, quoi. J'ai tout perdu. Ma souffrance est tellement grande. » Et en voyant Federer pleurer comme ça, ou on a presque envie de dire pleurnicher à 18 ans, d'une finale perdue, quand nous, on sait la suite, nous, on sait les 20 ans de carrière glorieuse qu'il a eue, on a envie de se dire, mais Roger, continue, prends courage, la suite est tellement belle, t'en fais pas du présent, là, oui, c'est douloureux, mais la suite est incroyable. Et je pense que ça nous permet de voir comment Dieu nous voit aussi, des fois, de se dire, bah oui, nous, nos vies, petit siècle qu'on est appelé à vivre ici sur Terre, c'est peut-être comme ces 2 heures de finale. C'est tout ce qu'on a là. On le vit à fond, évidemment. Et c'est bien ce qu'on est appelé à faire. Mais est-ce que peut-être cette image du Dieu de promesse qui nous promet le pardon des péchés et donc la suite glorieuse, et ce Dieu souverain qui a tout dans ses mains, ça nous permettrait peut-être de remettre en perspective le présent douloureux et la suite glorieuse. Oui, c'est vrai, nos vies peuvent être douloureuses, mais on a un Dieu qui nous promet les 20 ans d'après. Et encore plus, elle est éternelle, nous, la suite. Vous imaginez la carrière de Federer éternelle ? Moi, j'aurais payé pour. Hein. Remettre en perspective nos douleurs présentes. Oui, 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 c'est normal à 18 ans de pleurer toutes tes tripes en te disant « j'ai raté une occasion incroyable et je souffre et c'est dur ». Mais avec la Bible, avec le Dieu de promesse et le Dieu souverain qu'on a, on peut se raccrocher et savoir que la suite nous appartient, que la suite, il nous la promet, et qu'on peut se relever parce que, oui, c'est dur maintenant, mais je sais que ce n'est pas la fin. Et je sais que même la mort, ce ne sera pas la fin parce qu'il me promet la suite glorieuse dans sa présence parfaite. C'est le premier point que... Oui, ce Jésus en face du paralytique nous dit la première chose à laquelle se raccrocher, c'est que nos péchés sont pardonnés et que qu'importe ce qui se passe ici sur cette terre, la suite de la carrière, les 20 ans glorieux, l'éternité glorieuse, elle nous est promise, elle nous est assurée. Et c'est ça notre espérance. Mais nous avons aussi un Dieu de compassion. Et dire que la douleur présente n'est pas une fin en soi, nos souffrances seront terminées un jour, même la mort n'est pas une fin, la suite nous est promise, ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser nos souffrances actuelles non plus. Et Jésus ne le fait jamais. Jésus nous prend nos vies au sérieux, prend les vies des gens avec qui il a été au sérieux. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Et ça, c'est un miracle incroyable, parce qu'en étudiant... ce texte, je me dis, c'est vrai, Dieu, il sait la gloire éternelle dans laquelle on sera. En fait, je pourrais imaginer un Dieu bon qui nous promet la suite en nous disant, bon, bah, ta vie, tes 2 heures de finale, là, débrouille-toi parce que la suite est tellement géniale. T'inquiète pas, t'en fais pas. Mais Dieu, il ne nous laisse même pas seuls. dans notre vie, nos souffrances, nos deux petites heures de première finale. Il nous accompagne. Il est épris de compassion. Sa présence dans nos vies est aussi un cadeau auquel on peut se raccrocher. Et sa présence, parfois, oui, elle fait des miracles. Et parfois, oui, il décide de manifester sa présence par une guérison comme là, ce paralytique. Et parfois même sans vraiment voir de foi ou comme une réponse d'une formule magique. Deux chapitres plus loin, il y a l'histoire de la veuve de Naïn, où Jésus arrive dans un village, il y a un ensevelissement, une veuve qui enterre son seul fils, et elle est en train de tout perdre. Elle perd sa famille, elle n'a plus d'assurance vie, elle n'a plus de rang social, elle n'a plus rien, cette veuve que Jésus voit. Et il n'était pas venu pour ça, il devait juste traverser le village, et on voit juste en quelques versets, Jésus est épris de compassion. Il va vers le cercueil, il relève ce fils, il le rend à sa mère, et il continue son chemin. Il n'y a même pas de déclaration de foi, de formule ou quoi. Juste un Dieu de compassion qui décide de manifester sa présence. Par ce biais-là, parfois, la guérison miraculeuse. Mais oui, son action dans nos vies prend des formes diverses. Parfois, c'est le miracle. Et parfois, quand ce n'est pas le miracle visible, c'est quoi sa présence dans nos vies? C'est quoi le Dieu de compassion qu'on a? C'est comme pour cette veuve, comme pour ce paralytique. C'est un Dieu qui est touché et qui nous abandonne jamais. Et ça aussi, c'est incroyable de pouvoir témoigner d'un Dieu, de dire « Le Dieu que je connais, il a tout dans ses mains. » Et en plus, il te promet la vie éternelle. Mais en plus, ce que tu vis, même que ça paraît tout d'un coup tout petit à côté de tout ce qu'il a dans ses mains, ça le touche. Il s'en occupe. Il a envie de marcher avec toi dans les douleurs que tu traverses. Alors sa puissance manifestée par sa présence dans nos vies, elle a deux effets. C'est le signe visible pour révéler sa puissance et pointer le miracle par excellence, le pardon des péchés. Là, Jésus a relevé le paralytique, il a fait le miracle pour montrer aux pharisiens, regardez, je peux pardonner les péchés, je suis capable de miracles, je suis Dieu. Le signe visible sur terre, il sert à pointer le miracle par excellence, la vie éternelle, le pardon des péchés, juste par la foi, immérité. Et le miracle aussi d'un Dieu personnel qui nous aime et qui donne son esprit. Son esprit de vie. J'ai encore lu ce matin dans Romains 6, je crois, notre humanité est vouée à la mort, mais l'esprit de Dieu est voué à la vie et à la paix. Et dans n'importe quelle douleur qu'on traverse, n'importe quelle souffrance, cet esprit de vie nous est donné. Et il nous mène à la vie et à la paix. Il y a une image sympa que j'ai entendue quelque part. Un gars qui arrive au paradis et puis qui voit sa vie comme ça. D'un coup, il voit sa conversion. Oh, tout d'un coup, il y a deux traces sur le sable. Il dit « Ah ouais, je t'ai rencontré Jésus là à partir de ce moment-là. Tu marchais avec moi, c'est génial. » D'un coup, il réalise que tous les moments où il a souffert dans sa vie, il n'y a plus qu'une trace de pas. Il dit « Mais Seigneur, je t'ai choisi, pas pour que tu m'abandonnes juste les moments où j'avais besoin de toi, t'as rien compris. » Et Jésus lui dit « Les moments où il n'y a qu'une seule trace de pas, c'est parce que moi je te portais. » Et je trouve cette image belle parce qu'elle reflète super bien le fait que, en fait, dans nos souffrances, c'est là où des fois on a de plus de peine à réaliser que Dieu est présent. Alors même que c'est là où il se fait le plus présent. Mais parce que des fois, on sait exactement comment lui devrait marcher, comment lui devrait répondre à mes prières, comment lui devrait faire les miracles. On a une idée bien précise. Et en fait, il est en train de se faire tellement présent, mais d'une manière un petit peu différente de ce qu'on avait demandé ou espéré. Et pourtant, il nous porte. Pourtant, il n'a jamais été autant présent dans nos vies que dans ce moment-là. Et j'ai beaucoup hésité à vous faire ce petit témoignage, mais quelque chose m'en a convaincu, vous verrez tout à l'heure. J'ai perdu ma maman à 3 ans. Elle est tombée malade quand j'avais à peu près 1 année. Puis après 2 ans de maladie, de prière, elle est partie. Et remettre en perspective là les douleurs, moi je l'ai vécu de dire « Oui, bon, tu la retrouveras plus tard, c'est bien gentil. Mais toute ma vie, elle dépend quand même... » Elle n'est pas dénué de conséquences, de dire « j'ai pas connu ma mère, je l'ai pas grandi avec, qu'est-ce que je donnerais pour avoir partagé des souvenirs avec, pour savoir qui elle était, pour avoir vécu avec un moment, au moins, et même maintenant, encore ?» Remettre en perspective, c'est pourtant tellement beau de pouvoir se dire « waouh, toute ma vie, toute mon enfance, j'ai pu grandir en me disant « un jour je la retrouverai, je sais où elle est ». Un Dieu de promesses, mais c'est incroyable, dans ces moments-là, dans les moments les plus douloureux, ça prend jamais autant de sens que là. Et un Dieu de compassion aussi, parce qu'on m'a toujours raconté, spécialement mon père, comment dans 2 ans de maladie, une jeune épouse, jeune maman, est restée souriante et paisible d'une manière où mon père n'arrive pas à me l'expliquer. Et je me dis, c'est le gars qui était 7 jours sur 7 avec. Donc, il a bien dû voir les moments durs aussi, mais ce qu'il en retient sur 2 ans, c'est la paix et le sourire qu'elle a gardé. Et je vous avoue, j'avais noté ce témoignage parce que je trouvais qu'il illustrait bien ça, mais c'était il y a quelques semaines, et puis je m'étais dit, je le note, comme ça, d'ici que je trouve une autre image, je pourrais le supprimer, et ça m'aura fait cheminer. Puis entre-temps, un peu inattendu, il y a mon grand-papa qui m'appelle. « Ah ouais, je viens sur Cossonay, est-ce que t'es pas à l'église ?»« Ouais, oui, je suis à l'église, viens boire un café. » Et en 21 ans de vie, on n'a pas peu souvent parlé de ma maman, quelquefois. Mais... Et là, je ne sais pas pourquoi, il plonge dans le sujet et on parle de ma maman pendant je ne sais pas combien de temps. Et je n'ai vraiment rien cherché à parler de ce sujet, mais j'aime beaucoup qu'on m'en parle. Donc voilà, j'accueille, je discute, c'était super. Et tout d'un coup, il me dit, tu sais, le truc qui m'a le plus touché, je crois, c'est vraiment très peu avant la fin, on savait tous. Elle savait qu'elle allait partir, jeune mère de 30 ans, jeune épouse, et elle dit à la famille, dans la vie ou dans la mort, qu'est-ce que ça change ma vie? Elle appartient à Jésus-Christ. Et là, évidemment, on chiale tous les deux, bon, le beau-père, le fils, forcément. Mais incroyable, une foi, une espérance tellement fondée qu'on est capable de dire, en fait, c'est vrai, dans la vie ou dans la mort, ma vie, elle appartient à Jésus-Christ. C'est la même finalité. Et plus que d'y voir le Dieu de promesses, oh que oui, on le voit dans ce genre de déclaration et de paix, plus que voir le Dieu de souverain qui tient toute une vie dans ses mains d'une manière incompréhensible, moi je vois aussi le Dieu de compassion. On ne le voit pas là, le miracle de la présence de Dieu qui te donne sourire, paix et même la force de témoigner dans la souffrance. La présence de Dieu dans sa vie aurait pu se manifester par une guérison. Oui, ça aurait été merveilleux. Mais là, elle s'est aussi manifestée par une paix, par quelqu'un qui garde la foi dans un moment où juste, il n'y a aucune raison de rester positive. Mais on a un Dieu de compassion qui ne nous laisse pas, même dans la difficulté, qui ne nous abandonne pas. Et notre espérance, elle n'est pas basée uniquement sur comment je vois Dieu répondre à mes prières, comment je pense qu'il devrait marcher à côté de moi. Notre espérance, elle est basée sur la foi en l'éternité avec lui, parce qu'il pardonne mes péchés, son retour que j'attends, la présence de son esprit qui me transmet paix et vie, quoi qu'il se passe. Et l'assurance de ma présence dans sa gloire glorieuse et parfaite. Alors j'aimerais nous laisser en conclusion, comment témoigner de notre espérance alors ? Qu'est-ce qu'on a à dire à ce monde qui dit Dieu, bof, je m'en fous, j'ai pas besoin. Je vous ai remis les 3 points, pas exactement dans le même ordre, mais je vous les ai remis. On a un Dieu souverain. Je connais le Dieu qui a tout créé et qui tient tout dans ses mains. Et là, l'évangile a une pertinence dans un monde où il y a tout qui est éphémère, tout qui est le hasard, tout qui est moi, comment je le sens. Ça a tellement peu de sens, dès qu'on traverse un tout petit peu de souffrance, évidemment. Tout d'un coup, se dire, en fait, il n'y a rien qui tenait. Non, le Dieu des chrétiens, notre Dieu, le Dieu que nous connaissons, il a tout dans ses mains. Et ça, c'est un socle pour notre témoignage. Par contre, ça appelle d'autres questions. Bah, alors, s'il a tout dans ses mains, pourquoi c'est comme ça la souffrance autour de la terre? Parce que ce Dieu est compassion, mais il ne promet pas la facilité. Il ne promet pas de répondre à toutes tes prières par... Oui, et amen, comment tu le demandes. Mais il promet d'être avec toi dans la difficulté. Et ça, c'est tout aussi incroyable, voire beaucoup plus. Et finalement, nous avons un Dieu de promesses. Un Dieu qui, comme première réponse à ce paralytique et comme première réponse à n'importe lequel d'entre nous qui vient devant lui, avec un tout petit peu de foi, répond « Tes péchés sont pardonnés ». Oui, nous pouvons dire, quand tout d'un coup l'occasion se présente pour témoigner, le Dieu que je connais, il t'aime tellement qu'il est mort, lui, pour que toi, tu aies la vie éternelle. Et ça aussi, la mort dans notre société, c'est quelque chose de tabou, de fui par le présent, par les loisirs. Mais c'est quelque chose qui fait aucun sens et qui est une douleur et une question pour n'importe lequel de nos voisins, collègues, copains, à un moment donné. Cette semaine, il y a un jeune footballeur portugais qui est décédé dans un accident. Il y a un mois, il gagnait la Coupe des Nations avec le Portugal. Il y a 2 semaines, il se mariait. Il a 2 jeunes fils. Et là, il décède tragiquement. Et Cristiano Ronaldo, dans son message sur les réseaux de condoléances, il écrit plusieurs choses, mais la première phrase qu'il écrit, c'est « ça ne fait juste aucun sens ». Il y a un mois, tu fêtais avec nous, il y a 2 semaines, on était à ton mariage, tu as 2 fils, une épouse. La mort ne fait aucun sens pour les gens. Et la souffrance en fait très très peu aussi. Alors nous avons une espérance de laquelle nous pouvons témoigner, d'un Dieu souverain, d'un Dieu de compassion et d'un Dieu de promesses. Et je conclurai juste très vite par la prière. Seigneur, merci pour le Dieu que tu es, merci pour le Dieu que tu te révèles être en travers de Jésus-Christ, aussi face à ce paralytique. Un Dieu qui, dans toutes les situations, comme dans celle tellement stressante et multifactorielle de ton message là en Luc 5, un Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu, un Dieu qui a tout dans ses mains, dans lequel on peut se confier et savoir que tu es le socle solide pour nos vies. Et un Dieu qui nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à ce que nous puissions être avec toi dans ta gloire parfaite. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Merci. Et Amen.